Alors nous allons pouvoir commencer cet après-midi où nous recevons avec plaisir Serge Côté. Je remercie d'ailleurs la librairie Mola de pouvoir nous offrir ses locaux à cette occasion. Alors Serge Côté est psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne. Alors vous publiez un livre aux éditions Michel. J'en profite d'ailleurs pour excuser Philippe Lacadet, qui est directeur de cette collection et qui était retenu ailleurs aujourd'hui. Alors, votre livre, Serge Côté, je l'ai lu avec plaisir et intérêt. Il a d'ailleurs un certain succès, puisque la première édition a déjà été épuisée. Donc, c'est un livre qui se vend et qui se lit. Et l'intérêt, c'est qu'il rend compte de ce que peut être la psychanalyse freudienne éclairée par l'enseignement de Lacan, enseignement qui permet une pratique qui tient compte des nouveaux symptômes de notre temps, soit du malaise dans la civilisation. Alors, égarement des adolescents, enfants dits hyperactifs, enfants victimes, dépression, psychose ordinaire, autant de sujets dont vous débattez en confrontant la pratique analytique et sa théorie avec d'autres approches contemporaines. Alors, votre titre annonce l'inconscient de papa et le nôtre. L'inconscient de papa, on y entend, du moins c'est comme ça que je l'ai entendu, qu'il va s'agir de l'inconscient tel qu'il a été appréhendé dans les générations précédentes, et aussi, et ça va avec, donc, l'inconscient connecté au père et à la fonction paternelle. Bon, c'est le dernier enseignement de Lacan qui vous oriente, et donc vous ajoutez « et le nôtre », quoique cette formulation est énoncée très tôt, ou plutôt par Lacan, au cours du séminaire 11, traitant des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Mais vous rendez aussi hommage à Freud, sans nostalgie, en mettant en avant le tranchant de sa découverte, et en particulier à propos de la pulsion, me semble-t-il. Alors, dans le premier chapitre, vous faites état avec humour d'un Freud ringardisé. Je vous cite : on sait que la psychanalyse a tellement infiltré la culture qu'il n'est plus très futé d'y trouver la peste, comme le disait Freud en 1909. Tout juste le poil à gratter. On consent à dire en effet que parler fait du bien. Mais la psychanalyse, ce n'est pas cela, et elle continue d'être attaquée. Certains y trouvent donc plus que du poil à gratter, d'où une première question : qu'est-ce qui les démange ? Je peux enchaîner sur une autre question, vous les reprendrez sans doute après. Votre expérience du CPCT, qui est un centre psychanalytique de consultation et de traitement, vous permet de différencier justement parler et être écouté, orienté par un psychanalyste. Que pouvez-vous nous dire de l'acte du psychanalyste au CPCT, que vous résumez entre desserrer une identification ou indiquer au sujet la jouissance qui le contraint ?
Bien sûr, on peut opposer l'époque 1909, voyage de Freud aux États-Unis en compagnie de Jung. Ils ne savent pas que nous allons leur apporter la peste. Opposer ça à une attitude désobligeante à l'égard de la psychanalyse, comme ayant fait son temps, ne faisant peur à personne. Je remarque néanmoins, pour rester sur ces termes de pestiférer, que l'affaire n'était toujours pas réglée en 1925, qu'il y a eu des variantes dans l'histoire de l'admission de la psychanalyse dans la culture. Selon les pays, en Europe, aux États-Unis, ailleurs. Ça ne s'est pas passé de la même façon, mais ça ne s'est jamais passé sans douleur. En 1925, Freud dit à ces mots, la psychanalyse, pour avoir critiqué les fondements de la culture, l'ordre familial établi, pour renvoyer l'ordre familial établi à ses fondements, est considérée comme ennemie de l'humanité. Il y a... d'autres textes de 1925, dans le même article, enfin, il y a d'autres considérations sur cette stigmatisation de la psychanalyse dans un texte qui s'appelle « Résistance à la psychanalyse » au pluriel, qui a été écrit dans une revue juive, en français. Et donc j'ai toujours été saisi par... ce syntagme, quand même, c'est tardif, 1925, c'est après la guerre de 14, où Freud apparaît quand même, n'est pas loin d'avoir le prix Nobel, est idéalisé par Thomas Mann, il est vrai un peu plus tard, au moment de la montée du nazisme. Quel serait un monde sans Freud ? Un monde sans Freud, ce serait la barbarie. Bon. Donc, il y a lieu de s'interroger sur un regain de violence à l'égard de notre discipline qui confond le nom de Freud avec la psychanalyse. La psychanalyse, c'est Freud, et Freud, c'est l'inconscient de papa, c'est-à-dire, au premier sens que vous avez bien dégagé, la doxa, telle qu'elle s'est diffusée dans le public, et même, disons-le, je pensais au degré zéro du savoir analytique, tel que le Nouvel Observateur peut l'illustrer, par exemple. Bon, on en est là. Ouais. Bon. Qu'est-ce qui a gratté les universitaires américains dans les années 2000 pour promouvoir cette guerre freudienne, les Freud's Wars, chez les Freud bashing, les tueurs de Freud, les destructeurs de Freud qui se reconnaissent sous ce label? Ils sont là pour démolir la culture freudienne française. Font des recherches. C'est comme ça qu'on fait des découvertes sur les chambres fréquentées par Freud sur les lacs italiens, ou que l'on découvre que Dora n'avait pas du tout l'âge que Freud lui attribue dans les cinq psychanalyses, etc. Bien entendu que Freud n'a rien inventé, que l'inconscient, ça, c'est un concept qui circulait en Allemagne. C'est vrai, l'inconscient au sens d'imperceptible, ça, c'est la doctrine de Leibniz des petites perceptions. Ça a été très célèbre en Allemagne, les phénomènes de continuité et de discontinuité entre conscient et inconscient. Je vois qu'au Collège de France, un neurologue qui a la chaire de psychologie expérimentale utilise largement la notion d'inconscient neuronal et impute à cette zone subliminaire le fait d'être conditionné par un certain nombre de messages qui sont enregistrés, mais à l'insu du sujet. Et donc, il y a effectivement un savoir qui ne se sait pas, que le sujet ne sait pas. Ils appellent ça inconscient, réhabilitant d'ailleurs et Janet et Ribot, comme ça, une école française, effectivement, des maladies de la volonté, de l'inhibition, le sujet ne sachant pas ce qui l'entrave. Eh bien, dans ce cours très érudit du Collège de France, il n'y a pas le nom de Freud. Il n'a rien inventé. C'était déjà là. Ça, c'est les plus modérés, ceux que ça gratte un peu, mais que ça n'empêche pas de dormir. Mais dans les Freud bashing, il y a vraiment des très méchants. Ceux qui sont à l'origine, enfin qui ont leur pendant en France et qui sont à l'origine du livre noir, pour lesquels Freud ne s'est pas contenté de piquer la notion d'inconscient à ses collègues, mais truque ses résultats, est un faussaire, un charlatan, invente des faits qui n'existent pas. Dans les années 2005-2006 en France, vous avez pu lire cette littérature qui caricature, qui diffame la psychanalyse, qui la caricature et qui ouvre la voie au règlement de compte entre scientisme et psychanalyse, qui ouvre la voie à une conception neuronale du fonctionnement psychique comme machine de guerre contre la psychanalyse. Donc, c'est très curieux, en effet, votre question est la bonne. C'est très curieux d'assister à cet acharnement, parce que, n'est-ce pas, normalement, le siècle devrait être réconcilié avec la psychanalyse, si l'on entend par psychanalyse une entreprise de libération du désir, enfin, ou un assouplissement de la répression sexuelle, puisque c'est de cette façon-là qu'elle était considérée. Dans son texte « Histoire du mouvement psychanalytique » de 1914, Freud dit par exemple « L'humanité est prête à accepter n'importe quoi, en allemand « alles », c'est vrai, c'est « tout et n'importe quoi », pourvu que ça assure une défaite de la sexualité. » Bon, mais fond, y a pas, on pourrait dire au contraire, dans une société hédoniste où la jouissance est dénudée, comme où la volonté de jouir sans sanctifier, on pourrait penser que cette époque est dépassée, n'est-ce pas? C'est moins qu'on puisse dire. Que si la psychanalyse tenait son fonds de commerce du refoulement et de la répression sexuelle seulement, elle n'aurait plus qu'à mettre les clés sous la porte. Et donc, Freud a gagné à cet égard. Au revoir et merci, on passe à autre chose. Qu'est-ce qui reste alors de l'explication freudienne? Il y a quelque chose de la jouissance sexuelle qui ne peut pas être admis par la civilisation. Il y a quelque chose de la jouissance qui reste en travers de la gorge, de l'ordre établi, et qui reste aussi en travers de la gorge du désordre établi aujourd'hui. Je prendrai l'exemple de la sexualité infantile, puisque je crois que vous avez regardé vous avez fait allusion à ces articles. C'est hors micro je vous entendais parler avec la saignée de ces articles. Il fut une époque où les thèses de Freud étaient quand même d'abord controversées sur la sexualité infantile, et puis finalement, grâce aux psychanalystes d'enfance, c'est un peu entré dans les mœurs, n'est-ce pas, que l'enfant avait une sexualité. Mais si on se réfère par exemple au procès d'Outreau, on a vu des spécialistes, des psychologues qui ne sont pas des psychanalystes, défendre la thèse de la séduction, défendre la thèse de l'enfant victime par les souvenirs induits. On induit des souvenirs du trauma, mais a priori, si le gosse dessine mal ou va mal à l'école, forcément, il a été victime de pédophile. Il y avait cela, ces experts. Il y avait une autre catégorie d'experts. Les enfants ont des fantasmes. Les enfants ont des fantasmes, mais il faut innocenter, au contraire, les adultes. Tout ce que racontent les enfants ne reflète que le complexe d'Œdipe. Les juges ne s'y sont pas bien retrouvés et ont décidé de ne pas tenir compte de l'avis de ces psychologues fumeux. Aujourd'hui, il reste à ce sujet-là une confusion qui s'étale dans l'intérêt morbide dont fait preuve le peuple français pour l'inceste. Où il va de soi que le crime des crimes, alors là c'est pour revenir à la question de la sexualité comme quelque chose qui ne passe pas, la sexualité reste quand même la zone la plus sulfureuse de la civilisation. Ça ne passe pas. Il y a toutes les lucubrations sur la pédophilie, les enfants eux-mêmes qui tripotent les petites filles dans la cour de récréation à l'âge de 10 ans, se voient l'objet de signalements. La police rentre dans les écoles, les parents d'élèves, les parents de la petite victime font un procès, le gosse se trouve exclu de l'école, passe devant des tribunaux. Donc ça paraît absolument inconcevable, n'est-ce pas, dans l'idéologie moderne, enfin pour certains, mais il y a une pression de ce côté-là, que les enfants puissent avoir de tels vices. Sauf s'ils ont été effectivement séduits, manipulés par des adultes qui leur auraient transmis ce poison. Et donc, va dans ce sens le grand succès littéraire des œuvres de Madame Angot, par exemple, c'est pas. Où l'inceste, ce n'est plus la disposition de l'enfant pervers polymorphe par rapport à un des parents. C'est le parent incestueux qui est visé. Je parle de complaisance parce que je ne veux pas m'étendre trop longuement là-dessus. À propos du dernier livre de Madame Christine Angot, il y a 50 pages de description pornographique pure et simple. Il faut attendre la page 51 pour qu'on apprenne que la fille victime, qui a une quinzaine d'années, c'est la fille du violeur, et que le monsieur, qui se délecte des privautés en question, c'est le père. Ouf! On respire parce que pendant 50 pages, le lecteur se demande quand même s'il doit jouir ou pas. Et ça redevient politiquement correct à la page 51. Là, c'est indignez-vous, c'est horrible, voilà ce que c'est qu'un inceste père-fille. Mais on a quand même été tenu en haleine. Et ironiquement, elle a reçu d'un groupe assez sulfureux, auto-désigné, le prix SADE. Il y a une dame assez amusante qui est une provocatrice effrénée qui doit s'appeler Marcela Yacoub, qui écrit dans Libération, qui est une féministe libertine, une féministe pro-sexe par rapport aux féministes qui défendent le ministère de la vertu, comme c'est le cas un peu dans le gouvernement actuel. Et donc, elle a souligné le côté sulfureux, mais érotique, en disant « Sad ». Et alors, la fille est démontée, Madame Angot veut leur faire un procès, parce que comme ça, elle risque de rater le prix Femina, voire le prix Goncourt. Donc, là, faire l'éducation, comme dit Miller, faire l'éducation freudienne du peuple français, il y a du travail, n'est-ce pas? Il y a du travail, les choses sont complètement retournées. Libération sexuelle, écoutez, il ne faut pas rigoler. Qu'est-ce que c'était que la libération sexuelle? Pas forcément au niveau des mœurs, au niveau du fantasme, dans la littérature des années 75. C'était la revue Recherche qui intitulait son numéro sulfureux « 100 milliards ou 100 000 milliards de pervers ». C'était « tous pervers ». Et la revue a été interdite par Marcellin, ministre de l'Intérieur de l'époque, et elle l'est toujours. À mon avis, il est impossible de la rééditer. Enfin, évidemment, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais enfin, quand même, ça non plus. Hein. Et à titre de document intellectuel de l'époque, ça vaut son pesant de moutarde, parce que quand même, on voit alors beaucoup de descriptions pédophiles, d'ailleurs, criminelles, enfin, association du sexe et de la criminalité. Bon, l'homosexualité, n'en parlons pas, avec des dessins à l'appui, et signé Deleuze, Guattari, Jean-Paul Sartre, Châtelet, Michel Foucault, enfin, tous les intellectuels de l'époque avaient signé de leur nom cette revue. Et donc maintenant, on est quand même retourné à des propos d'enfants de cœur, n'est-ce pas, par rapport à ça. Alors, ce thème, oui, alors, et on me dira, mais quand même, il y a une émancipation sexuelle de la femme. Bon, je ne sais pas si je vais continuer longtemps sur ce ton-là, mais ça y est. Dans l'avion, je suis tombé sur une feuille de chou. C'est pas le Nouvel Observateur, mais qui m'apprend qu'il y a un best-seller érotique d'une Anglaise en circulation et qui en est à 40 millions d'exemplaires. Voilà, 40 millions d'exemplaires. Donc c'est Madame Marcela Yacoub qui va être contente. Encore que, semble-t-il, le scénario est un peu poussif et vraiment à la papa, puisque... Oui. Ah bon, c'est familial.
Je pense que c'est ce qu'on appelle 50 Shades of Grey.
Moi, j'ai cru comprendre que c'était une fille qui faisait l'amour avec son patron. Bon. Donc, c'est l'amour au bureau. C'est pas, ça date un peu. C'est pas absolument. On n'est pas quand même au-delà du phallus, n'est-ce pas? Bref, j'ai utilisé les références de Freud au malaise de la civilisation et à tout ce qui est connoté par malédiction sur le sexe. Voilà. La malédiction sur le sexe demeure aujourd'hui, malgré un soi-disant libéralisme des mœurs. Oui, sur le CPCT, quelques mots, qu'est-ce que vous m'avez parlé de l'acte analytique au, c'est ça, au CPCT?
C'est oui, c'est un peu prétentieux. Écoutez, tout est fait pour empêcher l'acte analytique dans les institutions et au CPCT. Il y a une contradiction. Et c'était un enjeu de surmonter cette contradiction et de dire qu'on ne procédait pas à un ravalement de l'acte analytique au CPCT en se privant de certains moyens. Après tout, se priver de certains moyens dans d'autres disciplines, ça a sa dignité. Il y a des logiques qui ne répondent pas au principe du tiers exclu. Il y a des logiques dites affaiblies. Comme il y a la géométrie aussi qui ne répond pas aux cinq axiomes d'Euclide. Bon, et on travaille avec ça. Eh bien, par analogie, je pense qu'au CPCT, on s'enlève certains moyens, durée indéterminée, pour l'analyse orthodoxe, et là, au contraire, un impératif... institutionnel, ça ne durera pas plus de quatre semaines. De 16 semaines. Mais dans ce cadre-là, enfin, ce qui est mauvais d'un côté peut apporter du neuf d'un autre et produire, comme je l'ai peut-être dit dans un des textes, une certaine accélération. Une certaine précipitation, une hâte du discours qui est riche d'enseignements et qui montre qu'on peut faire quelque chose en si peu de temps. Notamment, oui, sur les deux axes. Alors à l'époque, on était plutôt sensible à desserrer cette volonté effrénée de jouir et avec les impasses qui pouvaient... en résulter au niveau de conflits graves avec la famille, de désinsertion. Et cet impératif de jouissance aboutissait à des sujets complètement déboussolés qui venaient en quelque sorte trouver refuge dans ce cadre du CPCT, avec un transfert qui ne s'adressait pas particulièrement au psychanalyste, mais à cette institution régulatrice a priori. Tandis que le versant inhibition était peut-être moins évident. Enfin, c'est un peu statistique ce que je dis, mais ça doit refléter quelque chose, quand même, un réel clinique, puisque aujourd'hui, je ne suis plus au CPCT, mais j'ai des contacts avec mes collègues qui y sont. Ils m'apprennent qu'au contraire, il y a beaucoup plus de névrosés qu'avant, de sujets inhibés, de sujets en impasse et qui ne correspondent pas forcément au paradigme des années 2004, de ces sujets véritables électrons libres, notamment des femmes, des donjuaniennes, sans frein, qui couchaient avec un homme différent tous les soirs, très impressionnant, des collectionneuses, et qui se demandaient quand même ce qu'elles faisaient exactement dans la vie, où elles allaient comme ça. Mes collègues du CPCT de Marseille et Aix-en-Provence m'ont invité hier pour parler de leur cas à eux, et ça se confirmait, ce n'était pas des cas de psychose ou de psychose ordinaire. L'acte analytique, mes collègues le situaient par rapport au temps logique de Lacan, puisque leur thème, c'était l'entrée et la sortie, l'anticipation de la sortie par le type d'entrée. Il me semblait qu'on pouvait souligner plutôt l'instant de voir que
L'acte analytique était, enfin, relevait éventuellement de l'apophantique, au sens de montrer quelque chose au sujet, lui faire apercevoir quelque chose qui produisait un effet de surprise, de sidération. Enfin, il y avait ce binaire de lui faire voir avec un effet de surprise et qui engendrait un discours nouveau pour le patient, jamais dit, jamais entendu de quiconque, et qui l'étonne, qui étonnait le sujet lui-même de cette liberté qu'il avait à poursuivre. Sinon, on se prive de beaucoup de moyens. Le désir du psychanalyste est frustré dans un dispositif comme celui-ci. Et il a au contraire à se défendre d'être thérapeute, puisque tout le conduirait à glisser sur la pente de la psychothérapie à la papa.
Oui. Alors, oui, cette aventure du CPCT, donc, dont tu fus, enfin, du CPCT parisien, dont tu fus un pilier, puisqu'au fond, tu as animé une espèce de réunion clinique mensuelle qui a eu des moments assez glorieux. Au fond, quand on lit ce livre, on a l'impression, enfin, qui regroupe des textes, d'ailleurs, depuis les années, de la fin des années 80 jusqu'à nos jours. Et au fond, tu te demandes qu'est-ce qui a changé. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que tu avances. Alors, tu as parlé d'outro, mais au fond, c'est cette espèce de vacillation qui fait que, comme l'ont dit certains, le désir n'était plus à la mode. Et au fond, on voit que ce qui est à la mode, c'est quand même affligeant, puisqu'il y a une espèce de conspiration des dévots qui va des plus religieux, quelle que soit leur religion d'ailleurs, mais en général plutôt des religions du Sud que des religions du Nord. Donc il y a une conspiration des dévots alliée à religieux et laïcs. Hein, c'est-à-dire, il y a aussi les progressistes sont devenus dévots, ce qui est quand même une trouvaille contemporaine. C'est on trouve des gens qui sont contre la psychanalyse, contre la prostitution et pour le soutien à la Palestine. Mais ça me vient comme ça, et donc ça fait bizarre. Mais bon, dans cette conspiration des dévots, tu citais Marcela Yacoub, il y a quand même une donnée sur laquelle tu insistes et qui me semble extrêmement originale. C'est l'idée que le sexe, en devenant un objet de consommation, ce qui est vraiment la variable contemporaine, eh bien, il a trouvé sa limitation. C'est-à-dire que la consommation, ça ne fait pas plus de sexe, mais ça fait plus de jouir au sens lacanien, ça limite le jouir. Parce qu'au fond, le jouir sexuel se heurte à cette espèce de facteur réducteur qu'est la consommation. Et ça, je trouve que c'est une idée extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'au fond, à la limite, ce que tu appelais tout à l'heure la pornographie est là pour participer à la conspiration des dévots. Ça serait quelque chose à montrer, ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une union secrète des dévots et de la pornographie pour empêcher le sexe, qui est autre chose. C'est-à-dire que la trouvaille de la psychanalyse, c'est dire la sexualité, ça n'est pas la pornographie, c'est autre chose. C'est quelque chose dont, au fond, on ne sait pas trop ce que c'est. Et je crois que ça, il y a quelque chose de... Nous sommes porteurs de cette espèce de réel du sexuel, comme on dit dans notre discours, comment on pourrait dire, notre discours un peu dévot aussi, quoi. On appelle ça le réel du sexuel, donc tout le monde est content. Mais ça veut dire quand même que c'est pas quelque chose qui est facile à attraper. Et je crois que ça, c'est ce qui m'a frappé dans ce recueil. Ce qui m'a frappé aussi, c'est ce que tu dis de la jeunesse. Et j'ai trouvé, bon, tu n'as pas la position de papa par rapport aux jeunes, c'est-à-dire la position paternaliste, peut-être plus la position de grand-père qui au fond est aussi la mienne, c'est-à-dire la différence entre le papa, c'est qu'il est paternaliste, le grand-père au fond c'est celui qui est malin, c'est-à-dire celui qui sait parler aux jeunes. Et je crois que tu sais parler aux jeunes parce que tu repères bien que le tournant du siècle, c'est-à-dire dans ce siècle consommateur de sexe et dans ce siècle pornographique, ce qui branche les jeunes, c'est plutôt l'amour. Alors au fond, l'amour et l'émotion, le truc dont on a un peu honte et qui par un certain côté a rapport avec le sexe, c'est l'émotion, c'est l'amour, c'est les sentiments quand ils nous touchent vraiment. Et au fond, on pourrait dire qu'à partir de ce que tu avances, on pourrait calculer une adolescence comme une espèce de, je regardais ça hier soir à la télévision, de PTSD, c'est-à-dire de post-traumatic syndrome disease, lié à la rencontre avec le sexe. Pas avec la guerre, mais avec le sexe. Alors évidemment, pour certaines générations et certaines personnes, c'est contemporain et qui entraîne des troubles émotifs qui durent. Et je crois que là-dessus, tu aurais peut-être quelque chose à nous dire. Donc je t'interrogerai là-dessus, puisque je t'interrogerai en tant qu'ayant le souci d'un CPCT qui accueille des adolescents. Donc, il y a d'autres personnes ici qui en font partie. Et donc j'aimerais bien, si tu pouvais nous dire un peu ce passage à la question de l'amour au niveau de la jeunesse. Alors il y a une autre question qui me frappait dans ce que tu as dit. Alors ton recueil s'ouvre sur ta conférence de clôture à l'exposition qui avait été faite à l'UNESCO, organisée d'ailleurs par notre conseil quand je faisais partie du directoire avec Lia Mazoub et Louis Solano. Et j'ai le souvenir de ce discours que tu avais fait, le discours de clôture à l'UNESCO pour célébrer le 150e anniversaire de la naissance de Freud. Et je dois dire je l'avais trouvé absolument fabuleux, ce discours. 5 ans après, il l'est toujours. Il l'est toujours parce que, d'abord, il est extrêmement bien écrit, extrêmement bien dit. Et aussi, il sait manier ce qui devrait être notre position par rapport à Freud, c'est-à-dire rien moins que la révérence, mais plutôt une position qui sait être critique. Et au fond, tu montres bien quand même que ce qui n'est pas supporté dans la psychanalyse, c'est qu'elle humilie l'homme. Alors peut-être que tu pourrais nous en dire un petit peu. Et au fond, aussi que la psychanalyse a un peu attaqué l'idéal. Parce qu'on oublie quelque chose quand même. Les premiers en Amérique qui ont dit « il faut attaquer Freud » sont ceux qui disaient quelque chose de très net. D'ailleurs, vous les trouvez à l'heure actuelle toujours les mêmes dans les Tea Party. C'est exactement les mêmes. C'est ceux qui disent « la civilisation et la famille ont deux ennemis, Marx et Freud ». Et donc, tout simplement parce que Marx, c'est le socialisme, comme disent les Tea Party, exemple Obama, c'est leurs arguments. Et au fond, Freud, c'est celui qui a attaqué la famille. Et au fond, les gens qui ont commencé à faire du Freud bashing étaient des défenseurs de la famille. Alors après, il y a des Freud bashers de gauche qui se sont mis sur le coup, dont certains d'ailleurs, on les avait croisés, ont été des gens que nous avons croisés. On pourrait voir d'ailleurs comment il y a des espèces de spécialistes de la psychanalyse qui font un espèce de bashing et pseudo à gauche et qui au fond tous ont l'idée que ce qu'il y a d'insupportable chez Freud, c'est qu'il attaque l'idéal. Et ce qui m'a frappé dans ce que tu disais, c'est qu'au fond on a l'idée comme ça que la psychanalyse, ça fait valoir le sujet, Et au fond, on peut dire le XXe siècle, c'était le siècle du sujet. C'est-à-dire vraiment la grande trouvaille, c'est que nous étions tous des sujets. Formidable. Et on peut dire qu'au XXIe siècle, on s'aperçoit de quelque chose qui est une donnée de la psychanalyse, mais peut-être plus lacanienne que freudienne, c'est que ce siècle nous montre notre choséité. Hein, je crois que tu parles de ça. C'est-à-dire non pas en quoi nous sommes sujets, mais en quoi nous sommes choses. Alors évidemment, quand nous sommes choses, nous sommes vendables, jetables, commercialisables, tout ce que vous voudrez. De notre côté, quand vous êtes une chose, on s'occupe de vous. C'est un avantage par rapport à être un sujet, c'est-à-dire un sujet se débrouille, une chose, on s'en occupe. Et il est vrai qu'il y a énormément de gens qui veulent s'occuper de nous. Et au fond, la psychanalyse ne dit pas « vous êtes chose, devenez sujet », mais sachez y faire avec ce que vous êtes comme chose. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être dire un mot là-dessus, voilà.
Oui, d'abord sur le consumérisme de la jouissance, sur la consommation sexuelle, qui trouve sa limite interne. Freud le dit à sa façon, sur la limite de la pulsion, confronté à l'angoisse, qui ne peut pas trouver sa satisfaction. Et c'est là l'origine, enfin une des origines de la construction lacanienne de l'absence de rapport sexuel. Mais surtout, Lacan lui aussi confronte l'objet et l'angoisse dans un texte célèbre qui est cité qu'à moitié, qui est souvent utilisé chez nous. Que je ne l'ai pas apporté, je ne sais pas tout à fait par cœur, mais en gros, c'est le passage de radiophonie où on peut penser que la psychanalyse est réconciliée avec le siècle dans la mesure où elle a promu, elle a contribué à promouvoir l'objet A au zénith. Peu avant, Lacan dit « Lacanien, tout le monde le sera ». Alors, on peut penser que tout le monde sera lacanien parce que avec Lacan, l'objet A devient le cœur même de l'expérience analytique, l'objet A connotant dans ce contexte un opérateur de jouissance. Bon, et que le signifiant de la jouissance devient dominant dans la civilisation d'aujourd'hui. Mais, aussitôt après, Lacan dit que cet objet est vide et seule la psychanalyse en découvre la vacuité et la vanité. Que cet objet n'est pas la chose en soi ou est la chose en soi inatteignable, et c'est en tant que seule la psychanalyse produit un discours sur la volonté de jouissance et sa castration que son discours sera entendu. Parce que elle est seule capable de déchiffrer le malaise engendré par ce plus de jouir. Peut-être l'exemple un peu à la fois contemporain et dramatiquement connoté à une certaine époque, des années 70 aux États-Unis. Je parle du mouvement gay tel qu'il était aux États-Unis avant le sida, San Francisco, et après le sida. Ça a quand même changé beaucoup de choses. Jean-Claude Milner, dans son livre Le Dernier, son titre m'échappe. Clarté de tout, oui. Relate des expériences gays à San Francisco, à une époque où tout un quartier était réservé en quelque sorte à des couples sadomaso, dont certains se baladaient casquette nazie avec un esclave enchaîné par le cou. Et cela au nom de la liberté sexuelle et des human rights à l'époque. Milner va jusqu'à dire qu'il n'est pas impossible qu'à la même époque, il y ait eu dans les backrooms des meurtres plus ou moins ritualisés, des scénarios très poussés qui allaient jusque-là. Bon, et puis, vous savez ce qui s'est passé, un ralentissement de cette accentuation de la perversion sadomasochiste, ou du moins, on se baladait plus dans les rues de San Francisco, c'est devenu un peu plus discret, il y a eu le sida, etc. Et bon, ce qui me frappe, c'est le discours actuel de certains groupes homo qui ont nettoyé finalement tout cet aspect qui reliait, enfin, qui liait la jouissance à la malédiction, et en quelque sorte, si on peut dire, on est passé des backrooms à l'église ou à la bague au doigt, en tout cas. Bon, il y a là aussi une conjonction de la religion, de la famille et de ce que, dans des temps passés, on nommait la perversion. D'ailleurs, je ne sais pas si je cite cette lettre de Jean Genet à Sartre, qui est connu. Jean Genet, traumatisé par l'écrit de Sartre à son sujet, Saint Genet, comédien martyr, il lui envoie une lettre sur l'homosexualité qu'il appelle à l'époque la pédale. Il revendiquait les mots qui stigmatisaient l'homosexualité. Tout ça pour vous dire que dans la pédale, c'est pas tellement de sexe dont il s'agit, mais c'est de la mort. Et effectivement, si vous relisez Journal du voleur, d'autres romans de Genet, cette mortification est très présente. Ce n'est pas la jouissance hédonique. Absolument pas. Les amours d'adolescents, donc j'étais inspiré par certains films qui traitent des mœurs de banlieue, enfin des enfants qui font l'amour à 14 ans, qui fument, etc. Enfin des garçons surtout, et qui sont muets en présence d'une fille qui se voit complètement paralysée et vivant des émotions énigmatiques pour eux-mêmes, c'est-à-dire indéchiffrables au point que c'est de l'autre qu'ils tiennent cette révélation, qu'ils sont amoureux. Les neurosciences devraient nous instruire là-dessus, sur le fait d'être amoureux sans le savoir. Donc, comment ça passe de l'inconscient neuronal au battement du cœur. Et je ne peux pas dire que j'ai une riche expérience au CPCT de ces adolescents, ou peut-être de certaines adolescentes, mais je souscris aux analyses que faisait Roland Barthes dans son discours amoureux sur un renversement des affects auquel il était sensible déjà dans les années 60-70. C'est-à-dire que l'aveu de l'amour devenait franchement obscène dans notre civilisation, tandis que le sexe était banalisé, échappait à la honte comme à la pudeur, mais qu'il y avait une sorte, au contraire, d'impudeur majeure à dire quelque chose de ses sentiments, pour autant qu'on puisse même les connaître. Une sorte de bâillon infernale à la princesse de Clèves là, qui fait retour dans les banlieues dès qu'il s'agit de promouvoir, d'assumer ce sentiment. En même temps, il montrait la pauvreté de la culture littéraire contemporaine à cet égard. Évidemment, quand on lit Madame Mango, on ne peut que lui donner raison. Tandis que le discours amoureux se réfugiait dans la chansonnette, réduit à des bluettes des histoires de midinette. Et donc, je pense que je dis qu'on revenait... Il y avait un binaire de Claude François. D'un chanteur sulfureux. De Serge Gainsbourg à Claude François. Voilà, peut-être. Très à la mode, ce dernier. Alors, au CPCT, quand même, on rencontre des jeunes filles qui sont imbibées par ces religions du Sud auxquelles Lassagna faisait allusion. Et pour lesquels le sentiment amoureux produit des phénomènes de corps, des somatisations absolument terrifiantes, accompagnées de l'émergence d'un surmoi maternel tyrannique. Et c'est quand même le crime des crimes. Non pas forcément d'avoir un garçon dans la tête, mais comme disent les jeunes, de sortir avec lui. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, à Aix-en-Provence, il y avait un exemple qui allait exactement dans ce sens-là. On voit là le bénéfice de quelques entretiens qui permettent, c'est le cas de le dire, de desserrer cette contrainte. Ce n'est pas exactement le même phénomène que celui de l'impudeur du sentiment et du renversement des affects auxquels je fais allusion. Mais ça apporte quand même une limite à la croyance à un eudémonisme généralisé. Et où là, dans ces cultures, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, le nom du père, c'est quelque chose. Et la volonté répressive de la mère, tout autant. C'est quand même instructif de savoir qu'on rencontre de plus en plus ces personnes touchées par cette culture dans les institutions. Sur la psychanalyse qui humilie, c'est un titre à la Nietzsche, ça. La psychanalyse qui humilie. Enfin, il ne dit pas ça, mais enfin, c'est à la Nietzsche. C'est la thèse de Freud. C'est la psychanalyse humilie, c'est ce qui lui vaut cette hostilité. Elle humilie la culture. La religion repose sur le meurtre du père, la morale sur la répression des pulsions, donc sur l'hypocrisie, le capitalisme sur la merde, et le sentiment océanique du moi sur le narcissisme, ou plus exactement... La psychanalyse humilie le narcissisme du sujet en tant que le sujet se croit maître du langage, se croit transparent à lui-même, et c'est l'idéal des sciences cognitives de rétablir la communication entre les neurones machin et d'autres pour que, enfin, ce savoir inscrit dans le réel soit enfin à la disposition du sujet pour des raisons qui tiennent à la démocratie, à l'humanisme. Il a le droit de savoir, il a le droit de savoir ce qui se passe dans la région limbaire, semble-t-il, plus difficile à faire parler. Voilà. Vous vous souvenez des trois humiliations décrites par Freud dans la psychanalyse appliquée en 1916, Darwin, Copernic et lui. Lacan n'est pas convaincu de cette trilogie, en particulier tout le monde s'accommode assez bien du darwinisme. L'homme est quand même le fleuron de la création. Par ailleurs, le darwinisme est toujours aussi décrié. C'est toujours la guerre du singe aux États-Unis, au point que les Tea Party ont la volonté d'en empêcher l'enseignement dans les universités au nom de la Bible, enfin au nom de l'Ancien Testament, exactement comme il y a 100 ans. Il faut dire que Darwin se défendait mal parce qu'il était très bigot lui aussi. Donc, bon, c'est une question. Pour ce qui est de l'humiliation infligée par la psychanalyse au sujet qui se prend pour une sphère, qui se croit transparent, moi. Au fond, comme disait Lassagna, il y a l'envers aussi. Il y a la jouissance d'être une chose ou d'être un objet. Ça rentre dans le chapitre sur la sexualité. Ça rentre aussi dans le chapitre sur la jouissance d'être manipulé, d'être objet des neurosciences tout autant. Et ce n'est peut-être pas exactement la même version. Enfin, pourquoi la psychanalyse humilie ? En tout cas, aujourd'hui, les idéaux de la civilisation qui étaient pourfendus par la psychanalyse, enfin pourfendus, Freud se contentait d'en montrer les racines pulsionnelles et en général les pulsions partielles, orales, anales. Donc sur une région qui ne mobilise pas forcément le phallus et le nom du père, enfin sur les zones les moins catholiques, comme dirait Lacan, donc les objets A, objets bien peu catholiques, et qui étaient justement éventuellement au fondement du catholicisme par une série de dénégations, de refoulements, de répressions. Bon. Aujourd'hui que nous ne croyons plus au Père Noël, soi-disant, où en est la psychanalyse avec l'humanisme contemporain, avec le mondialisme ? Avec le féminisme, le siècle croit quand même beaucoup à l'uniformité des individus, aux tous pareils, à la réduction de l'opposition masculin-féminin. Enfin, c'est pas toute une idéologie faite pour surmonter l'impossible, l'intolérable de la castration. Donc ça touche quand même un réel de l'impossible à jouir que la psychanalyse vise. Il y a pas seulement de l'impuissance. Nous disposons des catégories pour montrer sur quel point exactement il y a de l'impossible. Ça ne fait pas forcément plaisir aux tenants du savoir-vivre contemporain, aux théoriciens du bonheur et à l'idéologie d'un accompagnement de la morale par la science. Et donc de nouvelles lunes sur quoi la psychanalyse est quand même, me semble-t-il, très réticente. Donc là, il y a un problème, ne pas passer pour conservateur sous prétexte que Nous avons un œil critique sur l'idéologie de l'unisexe ou de l'égalitarisme ou de la permissivité et montrer au contraire que nous sommes intempestifs, que c'est pour la psychanalyse et aussi pour un monde futur et que là nous nageons quand même dans des contes pour enfants. Avec une idéologie unanimiste. Bien entendu, on peut montrer que jusqu'à quel point Freud est archaïque, ou Freud est-il archaïque, ou Freud est-il moderne, voire postmoderne. il y a quelque chose à, bien entendu, à mettre au point, mais enfin, je pense que c'est assez évident pour nous tous, que Freud ne touche pas trop au père, dit Lacan, sauve le père, d'accord ? Mais je pense qu'il faut ajouter que Freud sauve la science. Freud est scientiste. Scientiste de la bonne façon, comme on l'était au XIXe siècle en Allemagne, c'est-à-dire refusant de confondre l'inconscient avec l'obscur, avec l'obscurantisme, avec le religieux, dans quoi il plongeait à l'époque avec Jung, avec d'autres aussi. L'inconscient, ce n'était pas un mot qui faisait peur du temps de Freud. J'ai évoqué Janet, non ? Je ne sais plus si... Oui. Le subconscient, l'hypnose, enfin, c'est quand même fantastique le succès qu'a eu Charcot à cette époque. Et donc Freud, qui, comme vous le savez, a fait des études de physiologie, de neurologie, avait d'une part à se démarquer du scientiste physiologique des élèves de Brücke, qui lui-même venait, enfin, était inspiré par le philosophe Herbart, c'est la psychologie scientifique allemande. Enfin, Freud sort de là. Et donc, en même temps qu'il devait éviter l'obscurantisme et le spiritisme, il n'a pas réduit non plus l'inconscient aux neurones ou à la physiologie. Enfin, Lacan a montré que c'était quand même des métaphores, que ça anticipait épistémologiquement, heuristiquement, ça anticipait sur la notion de signifiant, que le zèle, apparat, l'appareil de l'âme est toujours une entité entre psyché et somma. C'est une entité qui n'est pas le corps, qui n'est pas l'esprit non plus, et où Lacan a identifié le signifiant. Mais quels que soient les modèles de scientificité qu'a Freud, il a toujours voulu que la psychanalyse soit une science. Et dans une certaine mesure, Lacan aussi, il faudrait dater. Il y a des cours de Miller sur la question, je n'ai pas les dates. Enfin, je ne sais plus exactement comment Miller datait ça, mais il y a quand même un moment où Lacan décide que la science est une idéologie de la suppression du sujet, parce qu'il y a un flottement avec la psychanalyse, sujet de la science. Il faut bien s'entendre là-dessus et éviter la contradiction. Mais en tout cas, l'ambition de hisser la psychanalyse à la hauteur d'une science est caduque, est révolue, est obsolète. Pourquoi ? Parce qu'il y a un désir de la science. Il y a une question qui est posée aujourd'hui, enfin, elle l'a toujours été depuis Descartes, le désir de vérité. Freud est cartésien dans ce sens-là, il confond le réel et le vrai. Et la science est animée par un désir de vérité pour lui, mais pas pour Lacan. Il y a un fantasme de la science. C'est la réduction du réel au nombre et la réduction aussi aujourd'hui avec la neurologie, la biologie, la réduction du sujet parlant à une chose, plus une idéologie, je vous dis, du bonheur et très certainement des voies de passage aujourd'hui entre science et religion. Enfin, la science plonge dans l'idéologie, pas seulement au sens de Canguilhem où il y a des fausses sciences, il y a des idéologies, il y a la science, il y a des idéologies de la science, il y a des charlatans, il y a des fausses sciences, des discours qui miment la science. Donc ça ne manque pas aujourd'hui. Mais Freud a un idéal de scientificité qui ne fait pas l'objet d'une critique. Je crois que là, il y a une coupure. Et donc, nous-mêmes, nous avons affûté nos instruments pour diffuser cette bonne nouvelle. Et beaucoup de nos collègues s'y emploient. Ben, pour répondre, la nouvelle que le désir de la science lui-même plonge dans des zones pas très catholiques. Mais en n'apparaissant pas comme réactionnaire et conservateur, où on opposerait la science inhumaine à la psychanalyse humaine. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre.
Oui, d'ailleurs, je pense aussi, tu montres bien en quoi il y a le succès de la psychanalyse est bâti en quelque sorte sur un malentendu, puisque tout le monde en reconnaît l'utilité et les bienfaits en tant qu'elle ajouterait du sens, sens que consommerait et ferait perdre l'avancée de la science. Et au fond, c'est un malentendu, puisqu'au fond, si on tentait qu'on soit lacanien, la psychanalyse mène plutôt du côté du réel, c'est-à-dire de ce qui n'a pas de sens, pour, au contraire, se priver justement de ce recours au sens. Donc il y a une partie du succès de la psychanalyse... qui est bâti sur un malentendu qu'on constate assez souvent au CPCT, c'est-à-dire on nous envoie des jeunes pour qu'on leur redonne du sens. Et on voit qu'au fond, c'est justement à cause du sens en général dont on les abreuve qu'ils tombent malades. Ils tombent malades de ce jouissance, comme dit Lacan. Alors, est-ce qu'on pourrait pas dire, est-ce que tu serais pas d'accord sur le fait qu'au fond... la sexualité dont personne ne veut entendre parler aujourd'hui, ça n'est pas le rapport sexuel, puisque au fond, ce rapport sexuel, on nous le montre en long, en large et en travers, c'est ce que tu disais avec Angot. Je veux dire, si vous voulez avoir le prix Goncourt, enfin, c'est un petit peu la même chose avec les bienveillantes ou avec les choses comme ça, c'est-à-dire, plus c'est obscène, plus vous avez vos chances, en montrant le rapport. Mais ce qui, par contre, est insupportable... Et peut-être que c'est pour ça que l'amour devient aussi insupportable, c'est de montrer le non-rapport. Est-ce que tu serais d'accord avec ça ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de toujours subversif dans le non-rapport.
D'autant plus que ce non-rapport a souvent, enfin, sinon toujours, à faire... à l'amour en tant qu'il le contredit. Enfin, Lacan a beaucoup opposé l'amour et le sexe. Non seulement, enfin, c'est une réalité clinique des impasses du rapport sexuel dû au sentiment amoureux. Enfin, Lacan a un énoncé sur l'impuissance masculine... en forme de vitre, on n'est pas toujours impuissant avec les femmes qu'on aime. Donc, sous-entendu, selon la structure, on devrait l'être, puisque un homme qui aime, il est dans la position de la femme, donc c'est complètement dissymétrique. Cela au-delà donc des paradoxes freudiens. Du sexe possible, de la sexualité possible avec une femme ravalée et impossible avec la femme qu'on aime, etc. Je pense que c'est une structure, enfin, que déchiffre la psychanalyse, qui n'est pas du tout dans l'air du temps. Ça a l'air d'aller de soi qu'un monsieur qui aime une dame lui fasse l'amour immédiatement et réciproquement. Donc ça donne raison à Barthes aussi sur la vanité ou l'impuissance du discours amoureux. Donc voilà à quoi ça me fait penser. Quant au donner du sens, alors c'est un syntagme très répandu aujourd'hui qui supprime tous les scandales du réel, hein, qui domestique tous les traumatismes. Il suffit de donner du sens. il naît de trauma, il naît de d'effraction du sujet par un réel insupportable qui ne puisse être irréparable. On répare par le sens. C'est, me semble-t-il, mais je peux me tromper, le nommé Cyrulnik qui a contribué à divulguer ce syntagme, donner du sens. Mais je n'en suis pas sûr. Ça doit être. C'est lui. Ça. Oui.
C'est un produit du terroir, d'ailleurs.
Et là, il y a un profond malentendu avec l'ère du temps et la psychanalyse, la nôtre, donc, où le sujet, au contraire, est malade du sens.
Je voulais, à propos justement des adolescents et de l'amour, où on constate effectivement cette désertion du discours amoureux. Alors, vous faites référence au film L'Esquive.
Kechiche.
Voilà, de Kechiche. Et de Kechiche, le film L'Esquive. Où d'emblée, d'ailleurs, on voit dans la cage d'escalier un petit jeune qui, chaque fois qu'il rencontre sa copine dans la cage d'escalier, lui saute dessus pour l'embrasser, mais sans un mot. Enfin, il n'y a même pas un accueil, bonjour, comment tu vas, ou qu'est-ce que tu es bien habillé aujourd'hui, enfin, il n'y a rien. Hein. Et il ne comprend pas d'ailleurs qu'elle, au bout d'un certain temps, elle refuse ses embrassades. Alors, vous parlez de désertion du discours amoureux, mais je me sens que vous allez plus loin, même, parce que vous dites, les mots n'y sont pas, les jeunes sont dépossédés du dire qui conviendrait.
Enfin, c'est ce que je veux dire. Alors. Je m'inspire de La Rochefoucauld. Qu'est-ce que vous voulez? On ne parlerait jamais d'amour si on n'avait pas lu des romans d'amour. Et donc, à la place de ça, ils voient des films porno. Donc, ils font leur éducation par le film, pas par la princesse de Clèves. Même pas le président de la République ancien.
Oui, c'est bien connu. Voilà, mais je voulais que vous précisiez cela, parce qu'effectivement...
Je dois dire que je n'ai pas l'expérience de ces jeunes qui ont participé à des tournantes, qui pourraient venir au CPC, ils sont en tôle, plus tôt, quand ils ne sont pas acquittés. Et le fait qu'ils soient, que beaucoup d'entre eux soient acquittés, enfin, au-delà de l'insurrection que ça provoque chez les féministes, interroge effectivement sur l'idée qu'ils avaient eux-mêmes de ce qu'ils faisaient à l'âge des faits qui, pour le dernier procès, remonte à une dizaine d'années, mais ils n'ont pas du tout, je pense pas qu'ils mentent. J'ai bien le sentiment qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils faisaient, sauf à penser que c'était un rituel tribal, arrangé avec des amis, conventionnel, et que c'était du semblant quand même, et que pour la fille aussi c'était du semblant, et que dans un sens c'était comme à la télévision, que tout le monde mimait un spectacle avec aucune idée de la violence, de la transgression que ça implique, de l'humanité qui réside dans cet acte.
Et au fond, est-ce que, enfin, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que tu as l'air de parler d'une espèce de carence contemporaine du discours amoureux, ce qu'on constate.
Oui.
Et au fond, on remarque.
C'est alors, pas uniquement le produit de l'apprentissage. Je crois aux sentiments spontanés. Mais je constate un manque de moyens dans la culture de le dire, une dévalorisation même de se dire, qui rend le sujet impuissant à l'énoncer.
Mais qui va de pair, je pense, j'y pensais par rapport aussi à ce que tu disais, la chansonnette, enfin par rapport à certains pays d'ailleurs, ou certaines traditions où la chanson reste de la poésie chantée. Je pense au Brésil, par exemple, ou comme ça, et où c'est quelque chose, enfin la poésie, puisqu'au fond le discours amoureux et la poésie sont quand même très proches, et c'est quelque chose, au fond, dont on assiste en quelque sorte à une espèce de forclusion, quoi. C'est-à-dire, la poésie est un truc très difficile à attraper. Alors, évidemment, il y a toujours des gens qui liront les poètes, mais enfin, on ne peut pas dire vraiment que ça fasse Flores. Je veux dire, par rapport même à il y a 30 ans, comme tu disais, de Gainsbourg à Clos-Clos, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, on assiste à ça. Et peut-être que ça supposerait... Alors, j'avais l'idée, comme ça, de me dire, mais au fond, il y a un discours amoureux, quand même, qui reste... possible, c'est peut-être celui du transfert.
Très juste.
Alors, je voulais remercier beaucoup Serge Côté qui a fait tout un périple aujourd'hui pour pouvoir assister à cet après-midi et vous annoncer que vendredi prochain à 18h, nous recevons Agnès Aflalo qui va nous parler, invitée par la librairie Mola, d'autisme, nouveau spectre, nouveau marché.